Le journal présenté par Louis-Valentin Lopez.
Bonjour. Ce sont des pays qui détiennent sans doute les clés d'une résolution du conflit syrien, la Russie, l'Iran et la Turquie. Sommet entre les trois protagonistes aujourd'hui à Moscou, leurs divergences peuvent-elles laisser place au consensus? L'éclairage de Claude Brouillot, notre correspondant. Corée du Nord, Corée du Sud, les deux frères ennemis se sont en apparence réconciliés depuis un sommet historique hier. Analyse de l'après avec la spécialiste de la Corée du Nord, Juliette Morillo. Le port de Gaza ciblé cette nuit par des frappes israéliennes, pas de victimes. Contrairement à hier, 4 morts côté palestinien lors d'une nouvelle journée de manifestation. Le bilan avec Marine Vlaovic. Puis nous nous évaderons ensuite un peu de cette actualité lourde pour une pause lecture. C'est la fête des libraires indépendants. Ilana Moriousef éveillera notre appétit de bibliovore. Et puis comme tous les samedis, ce sera la Bulle Écho. Marie Vienno nous parlera des jeunes et de la sécurité au travail. Les maîtres du jeu du conflit syrien réunis autour de la même table, les chefs de la diplomatie iranienne, turque et russe à Moscou aujourd'hui. Si le conflit patine depuis 7 ans, c'est notamment à cause de désaccords et d'intérêts contradictoires entre les trois pays. Le dernier sommet commun s'était tenu début avril, c'était à Ankara. Vladimir Poutine, Recep Tayyip Erdogan et Hassan Rouhani s'étaient alors engagés à coopérer. Objectif, parvenir à un cessez-le-feu durable en Syrie. Et aujourd'hui, la priorité, c'est la question de l'aide humanitaire, Claude Brouillot.
Ce sommet tripartite qui intervient 2 semaines après les frappes occidentales a un objectif clairement affiché par le Kremlin, tout au moins en façade, accentuer l'aide humanitaire en direction du peuple syrien, avant même d'essayer de progresser en direction d'une solution politique. Cette mise en avant de l'action humanitaire est en fait le principal biais trouvé par la diplomatie russe afin de tenter de resserrer les liens avec l'Iran et surtout avec la Turquie. Il y a 15 jours, Ankara avait salué les bombardements occidentaux sur le régime de Damas, alors que la Russie et l'Iran menaçaient successivement de représailles ou de chaos. Résultat, aujourd'hui les liens sont tellement distendus entre les trois alliés et les intérêts tellement divergents que le Kremlin lui-même s'interroge sur l'avenir de ce trio. La Turquie luttera toujours contre les Kurdes et Al-Assad. L'Iran défendra au contraire le président syrien, surtout pour garder un moyen de pression sur Israël. Et la Russie, elle, veut préserver ses bases militaires avant tout, en se demandant si elle doit continuer encore longtemps à répondre devant la communauté internationale des écarts de Bachar al-Assad. Quant à la solution politique, qui devait constituer le dénominateur commun des trois puissances, elle semble s'éloigner au fur et à mesure que le régime syrien reconquiert des territoires.
Et Claude Brouillot, merci. Parlons à présent d'un autre sommet. La Corée du Nord célèbre aujourd'hui sa rencontre avec la Corée du Sud. Elle salue une rencontre historique qui ouvre la voie à une nouvelle ère. Les dirigeants des deux pays se sont engagés hier à préserver la paix et à dénucléariser la péninsule. Alors nous ne connaissons pas encore les détails, hein, le calendrier de mise en place de ce processus de paix. Mais pour Juliette Morillot, spécialiste de la Corée du Nord, ce sont les discussions qui vont se poursuivre dans un premier temps.
Ce qu'on peut attendre au lendemain de ce sommet, ça va être des rencontres quotidiennes et bien évidemment, extrêmement symboliquement, la rencontre des familles séparées par la guerre qui pourrait se passer très prochainement. C'est très symbolique pour les deux pays. Le deuxième point capital, bien sûr, va être la dénucléarisation. Là, en revanche, c'est un petit peu plus délicat dans les termes de cette déclaration de Panmunjom. On parle de dénucléarisation de la péninsule et non pas de la Corée du Nord unique. C'est là que les États-Unis interviennent, puisque au nord, dénucléarisation certes, mais au sud, vous avez également éventuellement armes nucléaires américaines, vous avez aussi le parapluie nucléaire américain. Tout cela va impliquer non seulement le nord, mais aussi le sud et bien évidemment les États-Unis.
Oui, justement, le prochain rendez-vous, c'est celui de Kim Jong-un et de Donald Trump en juin. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette rencontre entre les deux dirigeants ?
Tout a été fait avec ce premier sommet pour préparer le sommet avec Trump. Maintenant, on va arriver véritablement au cœur de l'affaire, c'est-à-dire qu'il va falloir donner des preuves tangibles d'une part et d'autre. C'est-à-dire que la Corée du Nord va devoir montrer effectivement sur le terrain qu'elle veut dénucléariser. Mais de l'autre côté, les États-Unis vont devoir aussi donner ce que la Corée du Nord a demandé en échange de sa dénucléarisation, c'est-à-dire la survie et la prolongation de son régime dans la paix. Et maintenant, reste à savoir quelles garanties les États-Unis sont prêts à donner.
Juliette Morillo, auteur du Monde selon Kim Jong-un, c'est aux éditions Robert Laffont. Elle était interrogée par Eva Djennak. Ce que les Palestiniens appellent la grande marche du retour s'est poursuivi hier. Ils réclament donc le droit de revenir en Israël pour les réfugiés de 1948 et leurs descendants. Cinquième vendredi consécutif de manifestations, cinquième jour de tension qui apporte son lot de blessés et de morts. La correspondance de Marine Vlaovic de RFI pour France Culture.
Tard dans la soirée, l'armée israélienne a bombardé le port de la ville de Gaza sans faire de victimes. Les cibles, deux navires du Hamas qui ont été endommagés. Des responsables palestiniens ont évoqué une attaque de drones. Si c'est le cas, c'est la première fois depuis la guerre de 2014 que les Israéliens procèdent à ce type de frappe. Le tout dans le contexte meurtrier des contestations à la frontière de la bande de Gaza. Hier, pour cette nouvelle journée de la marche du retour, l'armée n'a pas hésité de nouveau à faire feu sur les manifestants, alourdissant le bilan des victimes. Depuis un mois, au moins 45 Palestiniens ont perdu la vie, tandis que des centaines ont été blessés par balles. Le rassemblement doit se poursuivre jusqu'au 15 mai, qui coïncide à un jour près avec l'inauguration de l'ambassade américaine à Jérusalem.
Au Yémen, un nouveau raid aérien et de nouveaux morts. Des dizaines de rebelles ont péri hier soir lors d'une frappe de la coalition menée par l'Arabie Saoudite. La coalition militaire œuvre depuis mars 2015 pour stopper la progression des rebelles houthis. En outre, ces derniers déclarent aujourd'hui avoir tiré 8 missiles en direction de l'Arabie Saoudite. Rappelons que le conflit au Yémen a fait près de 10 000 morts et qu'il a provoqué la pire crise humanitaire du monde. Ce sont les mots de l'ONU. Et puis, ce sont 4 ans d'exil qui viennent de prendre fin. L'ancienne présidente du Malawi, Joyce Banda, est rentrée aujourd'hui dans son pays. Elle était mise en cause dans un vaste scandale de corruption qui lui a coûté la victoire. C'était lors de l'élection présidentielle en 2014. À la sortie de son avion, elle a été accueillie par plusieurs centaines de partisans de son parti, le Parti Populaire. Des élus de Bagnolet réclament des renforts policiers après une série de violences commises dans cette ville de Seine-Saint-Denis, en banlieue parisienne. En 3 semaines, 4 personnes ont été blessées par balles et des dizaines de voitures ont été incendiées dans le quartier de la Capsulerie. Le maire de la ville, Tony Di Martino, a rencontré le préfet hier pour un appel à l'aide.
Ce qu'il faut bien comprendre, c'est parfois surprenant, les habitants réclament une présence policière. Et ont besoin d'être assurés, ont besoin de se sentir en sécurité dans leur quartier. Le préfet m'a dit que la situation était prise en considération par l'État, par les pouvoirs publics, les quarts de CRS depuis mercredi qui passent leur après-midi sur le secteur de Gallieni et de la Capsulerie, et que d'autres moyens seraient présents à partir de la semaine prochaine. Mais la question qui reste posée, c'est quid du long terme. Peut-être que c'est pas ce qui va régler tous les problèmes, mais en tous les cas, c'est important quand même d'avoir un commissariat de plein exercice, et c'est important pour la population, et c'est une revendication ancienne de la municipalité. Vous savez, lorsque vous êtes comme Bagnolet, l'une des villes les plus endettées de France, on a besoin de moyens, de soutien, on réclame pas l'aumône, hein, mais on a besoin de moyens pour nos écoles, pour nos associations, pour nos politiques culturelles, pour nos politiques publiques en général.
Allez, un peu de lecture à l'heure du déjeuner, ça ne peut que nous mettre l'eau à la bouche. C'est la 20e édition de la fête de la librairie indépendante. Près de 500 librairies en France, en Suisse et en Belgique la célèbrent aujourd'hui. Ilana Moriousef a rencontré Marie-Rose Guarnieri, l'initiatrice de ce rendez-vous. Une femme assez exceptionnelle, écoutez.
Ce n'est pas une femme, c'est une tornade. Elle est capable tout à la fois de vous servir un café, de chercher le livre demandé par un client et de répondre à vos questions. Et il faut bien toute cette énergie pour défendre la librairie indépendante. Marie-Rose Guarnieri.
C'est pas un endroit de masse où vous pouvez tout trouver, tout avoir en 2 minutes. C'est un travail où les livres sont mis en présence, dans un lieu, avec des choix, avec des liens et avec une subjectivité qui fait la vie du livre. C'est ce qui est précieux pour le livre. Pas bien sûr les 10 meilleures ventes, mais tous les livres qui demandent de l'attention, qui demandent un œil.
Les 480 libraires participants offriront une rose à chacun de leurs clients et un livre spécialement édité pour l'occasion. Un livre de portrait, 31 éditeurs, chacun parle du livre qu'il a en quelque sorte révélé à lui-même.
C'est des gens de l'ombre, on a voulu vous les faire connaître. Et de quelle façon? On leur a demandé de choisir un livre qui a suscité leur vocation et qui a inspiré aussi leur catalogue. Donc ils ont tous choisi un livre et ils parlent de ce lien secret qu'ils ont avec un livre. En même temps qu'ils ont choisi un livre, ils ont souvent fait un autoportrait et on vous renvoie bien sûr pour faire connaissance vers leur catalogue.
Le livre a été tiré à 22 000 exemplaires. Il n'y en aura peut-être pas pour tout le monde, alors dépêchez-vous.
La bulle économique Marie Viennot.
Et c'est aujourd'hui la journée mondiale de la santé et de la sécurité au travail. Marie Viennot, vous faites un focus dans la Bulle Éco sur la santé des jeunes. Bonjour.
Bonjour, c'est aujourd'hui la journée mondiale de la santé et la sécurité au travail. Il y a 2 ans, l'Organisation internationale du travail avait mis l'accent sur le stress et depuis, les choses n'ont pas évolué de manière significative, me direz-vous. Certes, mais ces journées thématiques ont l'intérêt de braquer les projecteurs sur des réalités qui ne font pas débat, bien qu'elles soient centrales ou, comme on dit, systémiques. Cette année, l'OIT nous alerte sur la sécurité et la santé des jeunes travailleurs. Chaque année, 2 780 000 personnes de tous âges meurent à cause du travail. Combien de jeunes parmi eux ? Le rapport que publie l'OIT à l'occasion de cette journée ne le dit pas, car il n'y a pas de statistiques mondiales à ce sujet. Mais il cite les études de plusieurs pays qui vont toutes dans le même sens. Quand on est jeune, on a plus de risques d'accident et les lésions professionnelles sont plus fréquentes et dommageables. Aux États-Unis, elles sont 2 fois plus fréquentes que chez les adultes. En Europe, 40% plus élevées. Pour les Nations Unies et l'OIT, on est un jeune ou une jeune travailleuse entre 15 et 24 ans. Un âge auquel on discerne moins les risques. Voilà pourquoi il y a plus d'accidents. Un âge où le corps n'est pas arrivé à maturité. Voilà pourquoi l'exposition aux pesticides, aux perturbateurs endocriniens, bruit, ont des effets démultipliés sur le cerveau, les organes reproducteurs et l'audition. Or souvent, explique l'OIT, le matériel de protection est conçu pour les adultes et il n'est pas adapté aux jeunes. En plus, les jeunes, généralement précaires, ne peuvent pas toujours s'opposer aux ordres venus de leur hiérarchie, même s'ils menacent leur santé. Autre problème, si les moins de 18 ans bénéficient de protections spécifiques dans beaucoup de pays, entre 18 et 24 ans, un jeune qui travaille est considéré comme un adulte, ce qu'il n'est pas encore. Or, s'il compense son mal-être au travail par l'usage de drogue ou d'alcool, les effets à long terme seront bien plus délétères que pour les adultes. En France, le travail des moins de 18 ans est fortement encadré. Durée du travail, heures de nuit, travaux dangereux sont clairement définis par le Code du travail, mais il est de plus en plus simple d'y déroger. Avant 2016, pour faire travailler un apprenti sur un marteau-piqueur, le faire manipuler des substances chimiques ou monter sur un échafaudage, il fallait une autorisation de l'inspection du travail. Dorénavant, une simple demande de dérogation ou un avis médical suffisent. Dans son projet sur l'apprentissage, le gouvernement envisage de faire tomber d'autres verrous encore, notamment l'interdiction du travail pour les moins de 18 ans entre 22h et 6h du matin. Édouard Philippe à l'Assemblée nationale.
Parce que honnêtement, l'hypothèse selon laquelle l'apprenti boulanger ne peut pas apprendre à faire le pain parce que c'est trop tôt, il y a quelque chose qui n'est pas totalement satisfaisant et je pense que vous pouvez partager cet avis, monsieur le président Chassaigne.
Le député communiste André Chassaigne n'aura pas le loisir de répondre au Premier ministre qui ne lui aura pas lui répondu sur un autre changement peut-être plus important. Dans le projet de loi du gouvernement, un jeune apprenti ne passera plus devant les prud'hommes si son contrat est rompu, mais devant un médiateur. Quand il y a plus d'1 million de jeunes sans formation en France, la volonté de faciliter la vie des employeurs peut sembler légitime. Mais limiter leurs droits, n'est-ce pas aussi limiter leur pouvoir de se défendre pour garantir leur sécurité et leur santé ? Pour les apprentis, des formations spécifiques existent. L'OIT plaide, elle, pour que l'éducation aux droits, aux dangers et aux risques du travail commence à l'école, dans le cursus général. Une idée intéressante, sans avenir certain pour le moment.
Merci beaucoup Marie Viennot pour la Bulle Éco. Allez, on se tourne du côté du ciel. En Corse et sur la PACA, de belles éclaircies alternent avec des passages nuageux, parfois porteurs d'averses. Ailleurs, ce sont les nuages qui dominent, les plus épais d'entre eux, donnant des averses. Celles-ci sont plus nombreuses et localement orageuses sur le sud-ouest. En fin de journée, le risque orageux s'accentuera. Côté température, 13 à 16 degrés de la Bretagne et des Pays de la Loire au Hauts-de-France, 17 à 22 sur le reste du pays. Ce journal a été préparé avec l'aide de M. Le Chili à la technique. C'était Jacques Zubert.